Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
Les druides celtes des derniers siècles avant notre ère ont quelque chose de fascinant, mais rares sont les textes antiques qui les évoquent, encore plus rares sont les découvertes archéologiques les concernant. Je me suis donc replongé dans le livre 4 de l'histoire de la Gaule de Camille Julien, intégralement consacré aux druides de la Gaule indépendante. On y découvre que les sources antiques évoquant les Celtes à l'époque où ils ravagèrent la Grèce et Rome ne faisaient connaître chez eux que de bons rois ou de violents chefs de bande et jamais de prêtres pour conseiller les uns ou arrêter les autres. Pour découvrir les druides, Jean-Louis Bruno, bonjour.
Bonjour.
Archéologue, proto-historien, directeur de recherche au CNRS, j'imagine que si vous vous intéressez aussi aux druides, c'est parce que vous êtes le grand découvreur des sanctuaires gaulois, ceux-là même où devait officier ce clergé autour de pratiques rituelles vouées à quelques divinités chtoniennes, c'est-à-dire des entrailles de la terre. Aujourd'hui, vous venez de faire paraître un livre, La Cité des Druides, aux éditions Gallimard. Pour Camille Julien, cette prêtrise aurait fort bien pu se former naturellement. Jean-Louis Bruno, quand voyez-vous pour la première fois apparaître cette curieuse institution ?
Oui, alors on croit qu'ils apparaissent avec le livre de César, La Guerre des Gaules, notamment dans le livre 6, où il fait une description de la société gauloise, mais en fait, César ne fait que recopier, parfois mal d'ailleurs, un livre extraordinaire, mais qui a en grande partie disparu, pas totalement, le livre 23 de Posidonios d'Apamée, qui est un philosophe, mais aussi un savant dans tous les domaines, un équivalent d'Aristote, qui a vécu entre la fin du 2e et le début du 1er siècle avant Jésus-Christ, et qui a pu notamment venir en Gaule. Donc, grâce à Posidonios d'Apamée, on sait que les druides sont apparus chez les Grecs beaucoup plus tôt, et notamment, très probablement, à l'époque d'Aristote. Et on a les premiers historiens de la philosophie, qui sont notamment Antisthène ou Sotion d'Alexandrie, qui indiquent que ce ne sont pas du tout les Grecs qui ont inventé la philosophie, mais on le retrouve chez d'autres, dans d'autres peuplades, notamment donc les mages chez les Perses, les Chaldéens chez les Babyloniens, les gymnosophistes en Inde et les Semnotoï en Gaule. Donc, ça remonte très haut dans le temps.
Que signifie le mot druide, druidas, dans sa forme indigène ?
Alors, là, c'est effectivement une forme indigène et le terme le plus proche de ce qu'il était dans l'Antiquité, on le trouve dans le mot grec qui est druidas. Et donc, on reconnaît tout de suite deux racines. Donc ça, c'est quelque chose qui a été découvert très tôt et notamment sur laquelle a travaillé Émile Benveniste, le grand sociologue de l'Antiquité, si on peut dire. Donc, on trouve deux termes. Widas, c'est ce qu'on retrouve dans video en latin et eido en grec, qui veut dire voir, déterminer, etc. Et drou, c'est probablement une façon de dire trait en se servant du chêne, donc drous. C'est certainement le nom du chêne en gaulois, mais pas seulement, donc il existe aussi en grec.
D'où l'idée d'ailleurs du druide et du fameux chêne avec le gui ?
Ah ça, oui, enfin oui et non, parce que là on le sait par Pline, Pline l'Ancien, qui nous fait une description des arbres, etc. en Gaule, et qui nous dit que les druides coupaient le gui, justement, c'était une plante extrêmement importante, voilà.
Dans la Grèce du 3e siècle avant notre ère, on évoquait les druides dans un traité de magie attribué par erreur à Aristote, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Et donc là, on a la certitude que c'était déjà très ancien. Parce que pour qu'ils soient acceptés par les Grecs et que là, ils apparaissent dans des écrits d'une diffusion très importante, ça montre que les druides ont été connus par les Grecs très certainement dès le 6e siècle, c'est-à-dire en gros avec la fondation de Marseille en moins 600. Les Phocéens et les druides se sont rencontrés tout de suite.
Et on les compare aux maîtres de sagesse indiens.
Entre autres, oui, effectivement, voilà.
Votre livre et votre éditeur ont été passés au crible des réseaux sociaux. Le plus fielleux s'avère être un archéologue de qualité, tentant probablement de promouvoir ses livres somme toute médiocres. On le sait, l'archéologie est un sport de combat. Toutefois, une vraie critique est présente, celle de vos sources, des sources textuelles très restreintes, voire lacunaires, et dont la principale est Posidonius.
Oui, c'est la principale, mais pas la seule. Donc, ce sont surtout les Allemands qui ont commencé à comprendre que Posidonius avait joué un grand rôle. Ensuite, ce sont les historiens anglais qui ont les premiers publié tous les textes de Posidonius d'Apamée. Mais maintenant, depuis quelque temps, on se rend compte qu'il y a un autre auteur qui est très important et qui est plus ancien que Posidonius, qui est Timée. Timée de Sicile, qui lui a écrit plusieurs ouvrages sur la Gaule et sur l'histoire des Gaulois.
La clé de ces propos donc sur les réseaux sociaux sont une fois de plus dans Camille Julien qui écrit à propos des druides et de la rareté des sources. Si personne ne peut prétendre à trouver la vérité, tout érudit a le droit et le devoir de chercher de nouveaux problèmes. Jean-Louis Bruneau, le druide est l'homme de prière, du sacrifice, de la conversation avec les dieux.
La deuxième partie, dans les sacrifices, les druides ne font pas de sacrifices, donc les druides se présentent très tôt comme des véritables philosophes, et c'est ce qui intéresse justement les Grecs. Et ça, ils apparaissent comme des philosophes très certainement, donc au 6e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Auparavant, ils ont été des astronomes, parce que leur principale activité, de même pour les mages et les perses ou les gymnosophistes, etc., on leur demandait de prévoir l'avenir. Et ça, les Gaulois, enfin les druides, ont su le faire très très tôt.
Vous me disiez que les druides ne faisaient pas de sacrifices. Contrairement à Posidonius, César, dans la guerre des Gaules, est très réducteur et fait quand même des druides des officiants pratiquant des sacrifices humains.
Oui, c'est très simple parce que dans le texte de Posidonius, il y avait trois grandes classes d'hommes qui étaient versés dans la religion et tout ce qui est autour de la religion. Il y avait donc effectivement les druides qui étaient des philosophes, les wattes qui sont des devins en quelque sorte, et les bardes qui sont des poètes en quelque sorte. Et donc, César fait disparaître ces deux derniers, et donc il donne la place entière aux druides, en se trompant volontairement d'ailleurs.
Donc si ce n'est pas les druides, qui sacrifient ?
Alors, ceux qui sacrifient, justement, ce sont les wattes, qui sont ce que disent les Grecs, des hieropoioi, ceux qui font le sacré, et qui le font certainement aussi depuis très très longtemps, c'est-à-dire depuis le 7e, 8e siècle avant Jésus-Christ, et les druides vont réussir à les faire en partie disparaître, ou tout au moins à leur interdire de s'occuper de la religion à eux-mêmes. Et donc, les druides, à partir certainement du 5e siècle, vont s'occuper entièrement de la religion, et à partir du 4e siècle, ils vont pouvoir s'occuper notamment des lieux où se fera la religion, une religion politique avec les grands sanctuaires.
Un sujet capital, Jean-Louis Bruneau. Les druides ont la croyance de l'immortalité de l'âme.
Oui, ça c'est quelque chose qui est d'ailleurs cité par plusieurs auteurs antiques, parce que à ce niveau-là, les druides sont tout à fait comparables aux pythagoriciens, sauf que bon, l'au-delà c'est pas la même chose chez les Grecs et chez les Gaulois, et surtout la résurrection n'est pas la même, parce qu'en Grèce les morts peuvent se transformer en animaux, etc. et tout, alors qu'en Gaule, non, les morts reviennent déjà au bout d'un très certain temps et à nouveau comme des humains.
D'ailleurs, c'est le cas aussi des poètes orphiques.
Oui, les orphiques.
Qui précèdent d'ailleurs les pythagoriciens.
C'est contemporain, je pense. C'est contemporain, effectivement. Mais en fait, dans l'ensemble de la population grecque, c'est très peu de monde. Très, très peu.
C'est quoi l'au-delà chez les Gaulois ?
Oh, les Gaulois, on ne sait pas, sauf que l'au-delà, qui est définitif pour des gens comme les druides, qui ne se réincarneront pas, mais qui gagneront l'au-delà, ils vont certainement trouver leur place parmi les astres.
J'avais vu qu'on pouvait payer ses dettes dans l'au-delà.
Ah oui, oui,
et ça. On pouvait faire un emprunt de vivant et le rembourser
dans
l'au-delà.
Oui, alors ça, je sais.
C'est quand même qu'on croit à l'au-delà dans ces cas-là. Oui, on a intérêt à le rembourser.
Ça, c'est un bout de texte de César qui est très intéressant, mais qui est évidemment sorti de son contexte. Donc on ne sait pas exactement comment ça marche, mais c'est effectivement très important.
À l'image des Grecs, les druides sont des philosophes. Justement, évoquons Pythagore. Les druides sont-ils donc les élèves de Pythagore ou l'inverse, puisque deux versions existent dans la littérature hellénistique?
Oui, il y a au moins deux versions, mais effectivement, on peut pas se décider, hein, tout simplement. C'est que, d'abord, parce que les Pythagoréens sont quand même plus anciens que on a parlé des druides qui sont connus à l'époque de la création de Marseille, vers moins 600. Et les pythagoriciens se trouvent, enfin Pythagore, la vie de Pythagore, est un peu plus ancienne. Donc normalement, c'est les pythagoriciens qui ont dû inventer tout ça. Mais ceci étant, on sait que les druides, très probablement, ont rencontré des pythagoriciens, notamment en Italie, notamment dans le sud de l'Italie, juste après la prise de Rome. Donc en moins 390, les armées gauloises, certainement en partie accompagnées par des druides, parce qu'ils n'auraient pas pu se déplacer.
Les Cénons, donc.
Les Cénons, entre autres, mais il n'y a pas seulement les Cénons, ont rencontré donc les Grecs qui s'étaient installés dans la région de Région.
Mais les Gaulois sont aussi en Grèce, avec la prise de Delphes.
Oui, alors effectivement, ils arrivent en Grèce dans les années 280, etc. Delphes en 279, et très très probablement, là aussi, ils sont accompagnés d'un certain nombre de druides qui peuvent les guider, qui peuvent parler à leur place, parce que les Grecs ne parlent aucune langue que le grec. Et alors que les druides pouvaient parler l'équivalent du grec, ils étaient capables de comprendre.
Alors je retrace aussi cette anecdote. Arrivant devant le grand sanctuaire de Delphes, les Gaulois éclatent de rire en voyant des sculptures de dieux grecs.
Oui,
et ça, c'est très important.
C'est très important. Ben là, effectivement, on se trouve encore une fois au tout début du IIIe siècle. Et à cette époque-là, les druides ont réussi à faire ce qu'ils voulaient, c'est-à-dire que la religion, c'est une religion où les druides n'ont plus d'allure humaine. Ils les ont fait disparaître.
Les dieux.
Oui, les dieux, excusez-moi. Donc, il n'y a plus de dieux à allure humaine.
Les druides sont bien sûr des aristocrates, mais sont-ils attachés réellement aussi à la guerre, ou pas du tout?
Ils sont attachés par obligation, en quelque sorte, au début. Mais non, c'est pas des gens qui cherchent à augmenter le nombre de guerres, etc. et tout. Non, au contraire. Et on a justement, là aussi, certainement un texte de Posidonios d'Apamée qui nous dit que les druides, avec les bardes, là, cette fois-ci, ils étaient accompagnés par les bardes, les chanteurs, lors des guerres, et qu'ils, souvent, ils arrêtaient les ennemis s'affrontant pour les calmer. Donc, druides et bardes réussissaient à leur empêcher la guerre.
Ils ont peut-être aussi un rôle d'ambassadeur.
Ah oui.
Je pense bien sûr à la traversée des Alpes par Hannibal. Hannibal négociant forcément le droit de passage aux Gaulois.
Ah oui, tout à fait. Ça, et ces négociations n'ont pu être faites que par les druides. Encore une fois, pour la langue et parce qu'ils connaissaient très très bien le paysage. Là, ils avaient déjà une cartographie qui était certainement beaucoup beaucoup plus développée que celle des Grecs à cette époque-là.
Alors j'ai entendu que le mot ambassadeur était un mot justement d'origine gauloise qui signifiait grosso modo tourner autour.
Tout à fait.
Dans cette tradition donc avec Hannibal, j'ai vu aussi que des femmes avaient négocié, étaient ambassadeurs. Est-ce que l'on aurait des druidesses?
Alors, des druidesses, il n'en est jamais question, enfin, dans les textes anciens. Mais en revanche, cette histoire d'ambassadeurs qui seraient des femmes, oui, ça, c'est parfaitement vrai. Ça, c'est tout à fait juste. Et c'est extrêmement intéressant parce que chez les Gaulois, la place des femmes est beaucoup plus importante qu'elle ne l'est en Grèce ou à Rome.
France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier.
Jean-Louis Bruno, les druides sont aussi des juges et visiblement c'est un rôle capital.
Oui, bien sûr, parce que comme ce sont des sages, sont des gens qui prévoient l'avenir, etc. Immédiatement, les aristocrates du plus haut niveau leur laissent la place. Au départ, c'était des roitelets, hein, tous ces gens-là. Donc pour garder leur place, ils la confient aux druides qui vont très vite faire des sortes de jugements réguliers et notamment dans l'assemblée des Carnutes, enfin chez les Carnutes, c'est le rôle des druides, entre autres, c'est d'accomplir ces jugements.
Ce sont aussi des pédagogues, donc ils contrôlent l'enseignement.
Oui, alors ça c'est extrêmement important, parce que les druides font tout, s'occupent entièrement de l'éducation, et là c'est tout à fait différent de ce qui se passe non seulement en Grèce, mais aussi à Rome, puisque les Grecs et les Romains n'avaient pas vraiment des professeurs d'un haut niveau. Ils se débarrassaient un peu de leurs enfants. Ce n'est pas du tout le cas chez les Gaulois, où il y a des sortes d'écoles qui sont des écoles dirigées par les druides.
Qu'en est-il de la divination et de l'astronomie, puisque César relate un texte en disant « Il disserte abondamment sur les astres et leurs mouvements, sur la longueur du monde et de la Terre », ce qui est assez beau.
D'ailleurs. Oui, c'est tout à fait intéressant et beau. Mais ça, c'est le travail de fond des druides, et le plus ancien. Donc c'est eux qui...
L'astronomie,
et c'est eux qui sont seuls à s'occuper de cette affaire.
Est-ce que l'on peut faire un lien entre Pythagore, les druides et l'art? Est-ce que l'on voit, par exemple, dans des productions artistiques gauloises, des choses qui seraient capitales?
Bien sûr. D'ailleurs, j'ai consacré un chapitre entier de mon livre sur la question. C'est que non seulement les Gaulois s'occupent des monuments religieux, ça on va peut-être en parler, mais ils s'occupent très très vite, très certainement dès le 5e siècle avant Jésus-Christ, sur la représentation humaine des hommes qu'ils vont faire disparaître très vite. Et ça, on le voit très très bien, notamment avec les plus anciennes représentations anthropomorphes qui existent, notamment à Hirschland en Allemagne, et puis à Vix. Mais celles qui sont sur le Rhin vont rester et vont continuer à être représentées, alors qu'en Gaule, toutes ces statues vont disparaître, et notamment celles de Vix, où on les fait disparaître, notamment les têtes.
Et on les a retrouvées.
Comment ?
On les a retrouvées, les têtes.
Les têtes de Vix ?
Elles ne sont pas dans un petit bâtiment juste à côté?
Non. On connaît l'ensemble de la statue, mais pas la tête. Bon.
Donc, les druides interdisent des représentations des dieux, mais ils interdisent aussi l'écriture. L'écriture pour tout ce qui est sacré.
Oui, alors là, c'est l'équivalent de ce qui se passe chez les pythagoriciens. Donc, les pythagoriciens n'utilisent pas non plus l'écriture. Et ça, en fait, c'est peut-être là-dessus que César écrit les choses les plus justes. Notamment, il dit que c'est une très bonne chose, parce que ça oblige les élèves et puis les gens qui vont devenir des intellectuels à tout remémorer. Et donc, ça va leur ouvrir vraiment des ouvertures d'esprit extraordinaires.
Mais il y avait une peur des prêtres de voir des textes diffusés?
Non, je pense pas, parce que de toute façon, eux étaient les seuls à pouvoir quand même écrire, parce qu'ils écrivaient notamment grâce à l'alphabet grec, donc tout ce qui était la numération, ça c'était très important, et puis les calendriers, mais pour le reste, il n'y a qu'eux qui connaissaient un peu les choses et qui les avaient en tête.
Les découvertes archéologiques de Vix ou celles de Lavaux montrent la présence de principautés en lien avec le bassin méditerranéen. Toutefois, cette oligarchie s'effondre au cours du 5e siècle au profit de petites aristocraties guerrières. C'est, semble-t-il, à cette époque que les druides constituent une communauté répartie sur l'ensemble de la Gaule, communauté qui se réunit annuellement.
Oui, alors ça, quelque chose qu'on connaît très très bien par un texte qui cette fois-ci est assez long chez César, qui nous dit que l'assemblée des druides, l'assemblée annuelle, se déroulait chez les Carnutes. Et ce qu'il dit est extrêmement intéressant parce que cette assemblée se trouve au centre géométrique de la Gaule. Donc c'est un ombilique en quelque sorte. Et donc on se trouve dans leur assemblée à 450 km de toutes les frontières les plus lointaines.
Donc on peut définir une Gaule dans ces cas-là?
Ah bah oui, la Gaule elle est définie très très tôt, puisque vous parliez tout à l'heure de Julian, il en a assez souvent parlé. Et puis on a aussi d'autres, même des géographes comme Victor de Lablache qui ont travaillé là-dessus, qui montrent que de toute façon cette frontière de la Gaule, elle était définie. Et là justement, Posidonios a écrit des passages très très intéressants qu'on retrouve chez Strabon, qui nous indique que la Gaule est définie par les mers, donc la Manche, l'océan, la Méditerranée, et par les montagnes, Pyrénées et Alpes, et surtout le Rhin, qui en fait ferme complètement cette Gaule.
Pourquoi la forêt des Carnutes? Pourquoi le bois a-t-il du sens?
Ah non, la forêt des Carnutes, il ne le dit pas dans son texte. Non, il ne le dit pas. Non, il n'y a pas question de forêt. Non, il nous dit que c'est chez les Carnutes, pour cette raison, c'est une question géographique. Et il est probable que c'était un endroit qui n'a pas été redécouvert, notamment par les Gallo-Romains par la suite.
À découvrir, donc.
Ah, ça reste à découvrir, effectivement.
Cette sorte de congrégation, quel est son objet ? Se réunir, d'accord, mais rendre la justice aussi, par exemple ?
Alors, au départ, c'était pour les druides, donc c'était étudier ensemble toutes les questions importantes, notamment sur l'astronomie, etc., et pour que chaque druide qui commençait à faire des découvertes puisse les offrir aux autres, puisse se faire critiquer de façon à ce que tout soit accepté. Donc ça a été certainement pendant très longtemps, probablement plusieurs siècles, une question d'éducation druidique pure et simple. Mais très vite, les aristocrates, ceux qui avaient le pouvoir chez eux, ont demandé aux druides de régler les problèmes politiques, guerriers, etc. Et donc très tôt, les druides ont décidé que leur décision ne serait pas dans chaque cité, mais dans la cité, dans le centre de la Gaule. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire par rapport aux Grecs, c'est que les cités gauloises existent, c'est pas une grande découverte, puisqu'on sait qu'en Grèce, elles existaient beaucoup plus tôt, mais en Grèce, elles n'ont jamais pu se rassembler dans des confédérations, alors que les Gaulois ont réussi à le faire. Et ça, c'est tout à fait...
Les druides gaulois.
Oui, les druides gaulois, pardon.
Pas les autres.
Non, pas les autres.
Nous le savons, les druides se réunissent donc en assemblée et constituent ainsi un corps fédéré, très puissant, qui aurait même à sa tête, nous dit César, le premier des druides.
Voilà, oui, c'est un princeps, comme il le dit. Donc, effectivement, parce que en fait, cette assemblée qui se réunissait dans le pays des Carnutes, ce n'était qu'une partie des druides, c'était des représentants venant de toute la Gaule, de toutes les régions. Donc, il fallait que chacune des communautés désigne, en quelque sorte, des sénateurs. Puisque donc les Gaulois ont très tôt usé du Sénat, certainement en l'apprenant des Phocéens, donc à Marseille. Et donc, très probablement, le premier essai de grand sénat au niveau national, en quelque sorte, au niveau du pays tout entier, c'est grâce aux druides.
Ils seraient 600, c'est ça ?
Ils seraient 600, donc c'est toujours le même nombre qui revient. 600, c'est le nombre des Timouks à Marseille, le sénat de Marseille, c'est 600. Et chez les Bellovaques, ce sera 600, chez les Nerviens, ce sera 600. Et chaque fois, combien ils ont de sénateurs par cité, c'est 600.
Tente-t-il de construire une nouvelle société, unir les Gaules et par là même prendre le pouvoir ?
Ah, votre premier membre de la phrase est tout à fait juste, la fin, non ? Oui, ils voulaient effectivement organiser le pouvoir, mais ils n'ont jamais voulu le prendre, ce qui fait la grande différence avec les pythagoriciens, puisque le Pythagore, très tôt, voyant que ça ne marchait pas très bien dans le sud de l'Italie, dans ce qu'on appelle la Grande Grèce, et lui-même, et ainsi que certains de ses collègues, ont pris le pouvoir dans un certain nombre de villes, notamment Crotone, et ça s'est très très mal terminé pour eux.
C'est-à-dire ?
C'est-à-dire qu'ils ont été exterminés par les citoyens qui ne voulaient plus des pythagoriciens comme chefs.
Jean-Louis Bruno, quelle sera cette gouvernance des druides ? Passer de la tribu à la cité et de la cité peut-être à cette Gaule unie dont on parlait ?
Ah bien sûr, oui, tout à fait. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que avant d'arriver à la Gaule tout entière, les druides très certainement avaient réussi à former des confédérations. Donc, confédération. D'ailleurs, César commence son ouvrage par une phrase de Posidonios d'Apamée où il indique que la Gaule est divisée en trois parties. Donc, la partie centrale, qui est celle des Keltae. D'ailleurs, c'est le seul moment où il emploie le mot Keltae. Après, il n'emploiera plus du tout ce mot. Au nord se trouvent les Belgas et au sud-ouest, les Aquitanies. Et donc, ce qui est extrêmement intéressant, c'est que ces Keltae qui occupent le centre de la Gaule, autour de l'Auvergne jusqu'à la Loire, etc., dès le 5e siècle, sont suffisamment organisés pour que le principal homme politique de cette assemblée décide de faire des invasions en Italie. Donc c'est quelque chose de très très ancien.
Jean-Louis Bruno, vous parlez de nation, bien sûr, entre guillemets. Mais on sait que les Gaulois étaient peut-être contre l'État. Ils ont d'ailleurs totalement détruit les cités princières du 5e siècle. Et ils ont surtout tué le père de Vercingétorix, Celtios, chef de toutes les Gaules et qui aspirait à la royauté.
Là, je ne suis pas d'accord du tout avec vous. Non, pas du tout. Pas du tout. On n'est absolument pas sûr que les druides aient eu cette pensée-là. Quant Celtil, on le sait par un tout petit bout de phrase de César qui nous dit que le père de Vercingétorix, donc l'Arverne Celtil, qui était certainement un aristocrate, mais extrêmement intelligent, puisqu'il a en quelques années réussi à remettre les Arvernes à la première place de la Gaule, alors qu'ils avaient été virés par les Éduins. Donc lui reprend sa place et il est honoré par tous les peuples de la Gaule et il devient en quelque sorte le prince de tous les Gaulois. Et pourquoi les Arvernes eux-mêmes décident de lui faire un procès qui finira par la mort de ce Celtil, c'est parce qu'ils ne veulent pas qu'il devienne chef des Arvernes.
Hormis Divisiac, connaît-on le nom de druide passé à la postérité? Divisiac, d'ailleurs, qui réunit une assemblée très rapidement avec César après juste la défaite des Helvètes.
Oui, non, c'est le seul druide qu'on connaisse. Et encore, on ne le connaît pas grâce à César, qui pourtant a passé au moins un an, voire peut-être deux années constamment avec lui, et il ne le dit pas. Mais je pense qu'il est possible qu'ils ne veulent pas le dire. Et en fait, on sait que Divisiac était un druide grâce à un écrit de Cicéron qui s'appelle De Divinitate, qui raconte que Divisiac, en moins 60, avant Jésus-Christ, était venu à Rome et avait vécu plusieurs mois dans la villa somptueuse de Cicéron. Et ils avaient pu parler de la philosophie, de l'activité des druides, de l'activité des augures, parce que Cicéron était aussi un augure.
Nous avons parlé des druides, nous n'avons pas parlé des dieux. Or, ces dieux gaulois auraient pu être réinventés par les druides. Un groupe de six avec, nous dit César, Mercure, Apollon, Mars, Jupiter, Minerve et Dispater. Dispater étant une sorte de Pluton.
Oui, c'est une recréation des druides, parce que, comme chez les Grecs, comme chez les Romains, les populations disposaient de plein de divinités.
Évoquons les sanctuaires. Le fait peut-être le plus important est que ces lieux de culte gaulois sont similaires aux sanctuaires grecs et romains.
Tout à fait. Donc les plus anciens, donc c'est ceux qui datent du début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, comme celui de Gournay-sur-Aronde. Après, on en connaîtra d'autres comme Ribemont-sur-Ancre, par exemple. C'est exactement l'équivalent des sanctuaires en Grèce et en Italie.
Peut-être aussi deux mots sur cet étonnant édifice trouvé sur le site de Coran par Mathieu Pou.
Oui, voilà. Alors justement, Coran, à l'entrée du sanctuaire qui a été découvert et fouillé par Mathieu Pou,
se trouve
un autre grand enclos qui arrive assez souvent aussi. Et là se trouve un théâtre qui a dû être construit au début du 1er siècle avant Jésus-Christ, qui était en bois et qui est l'équivalent des théâtres en Grèce et en Italie.
Jean-Louis Bruno, l'archéologie a-t-elle mis au jour des tombes de druides? Certains archéologues évoquent notamment celles trouvées sous le tarmac de l'aéroport de Roissy.
Oui, ben non, je ne crois pas. Enfin, moi, je n'en suis pas persuadé. Je connais très bien cette sépulture de Roissy. Je ne vois pas en quoi elle serait particulièrement druidique. Et puis, surtout, ça n'apporte pas grand-chose, en fait.
Donc, les druides sont encore à trouver par les archéologues?
Ah oui, il faut encore travailler sur la question.
Jean-Louis Bruno, merci beaucoup. Je rappelle le titre de votre livre, La Cité des Druides, aux éditions Gallimard. Carbone 14 a été réalisé par Émilie Vallard, à la technique Ludovic Auger, et bien sûr avec la contribution de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de France Culture et l'application Radio France, ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr.